Vacances. Le voici arrivé, le moment tant attendu.
Quand faut y aller, merde.
Cinérama.
Y a des soleils, y a des nanas. Tarla dirada.
L'été.
On va s'enfourrer jusque là. Tarla dirada.
Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre.
À mon avis, il y aura des ouvertures.
Génial.
Nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital.
Des chroniques, des blind tests et des séries sur le cinéma.
Eh bien, je dois reconnaître que vous n'êtes pas comme je m'étais imaginé.
C'est une blague.
Ouais, jamais très original dans ces moments-là.
This is Cinérama.
Bonjour, depuis le début de cette période estivale, nous vous proposons de faire une pause hein, avec l'actualité du cinéma, en vous présentant notamment deux séries. L'une traite des crimes adaptés par Hollywood et l'autre des réalisateurs qui sont aussi compositeurs de leur musique de film. Mais pour cette émission, le sommaire va changer radicalement. Vous allez pouvoir entendre ce que j'aurais aimé en fait vous présenter tout l'été, des musiciens, chanteurs qui nous parlent de leur rapport au cinéma. Alors il se trouve que ça a été difficile hein, de mettre en place cette série. Je n'ai trouvé que Sinclair, le funky man, hein, pour me parler de son rapport au cinéma et de comment il a composé les musiques de films, car oui, l'artiste fait partie de ces musiciens qui ont composé pour le cinéma jusqu'à être nommé au César pour Le premier jour du reste de ta vie. Une récompense qui lui a échappé, vous l'entendrez, il l'a un peu mauvaise. Alors si l'on va entendre Sinclair, on ne va malheureusement pas entendre l'intégralité de l'entretien, car il y a eu un problème technique, je n'ai pu sauver que les deux tiers de l'enregistrement. Mais avec cette durée, on passe déjà un bon moment. Voici toute une émission Cinérama avec l'artiste Sinclair qui nous parle cinéma et musique.
Me trahir, je vous avoue, rien ne sert de mentir.
This is Cinérama. Cinérama.
Bonjour Sinclair, merci de nous recevoir pour parler, alors non pas musique, bien qu'on en parlera évidemment, mais avant tout de cinéma, parce que vous avez un rapport avec le cinéma, mais on va revenir finalement au début. Quel est votre premier souvenir de cinéma?
Alors le premier souvenir de cinéma, le vrai souvenir, c'est Star Wars, c'est 1977, j'ai 7 ans, et là je prends une claque phénoménale, tout s'arrête pour moi. L'école, tout ça, je me dis plus rien n'a d'importance à part la force. Ouais, c'est un vrai choc parce que c'est la première fois que je rentre vraiment dans l'écran. Je me rappelle très bien, c'est mon père qui nous avait emmenés, on habitait en banlieue parisienne, et on a été déjà dans le complexe de l'époque et je crois que ce jour-là, je me suis dit que ma vie avait un sens. Marrant.
Quand je pense à ce que nous avons traversé, je n'en reviens pas que nous soyons encore en état de marche. Avec cette rébellion et tout ça.
Tu es au courant de la rébellion contre l'Empire?
C'est même à cause d'elle que nous sommes maintenant chez monsieur.
Tu as vu des batailles?
Plusieurs, enfin je crois. Mais je n'ai pas grand-chose à dire. Je suis un interprète, je ne sais pas très bien raconter les histoires. Ou du moins, je n'arrive pas à les rendre intéressantes, hélas.
Bon. Vous n'êtes pas le seul à avoir été impressionné par ces images de George Lucas. Est-ce que selon vous, le fait que ce soit ce film qui soit le premier, ça a influencé votre rapport au cinéma, aux images?
Complètement. Je pense que ce film, ces images, le propos, le son, parce que c'est quand même énormément de son dans Star Wars.
Sous-estimez pas la force.
Cela ne me dit rien qui vaille.
Rappelle-toi, je suis là.
Tout ça a totalement bouleversé mon rapport aux images, mon rapport même à la narration et mon rapport à la musique.
À la musique aussi, donc avec c'est John Williams.
C'est John Williams, mais c'est même le film, c'est même la manière dont le film est fait. Ça m'a toujours donné envie de faire quelque chose qui sort du réel. J'ai toujours aimé la musique qui n'était pas ancrée dans le naturel. J'aime le surnaturel.
Une raison de vous haïr, mais n'avez aucune pour vous fuir. Je pense avoir fait tant preuve de partage, mais parfois il faut savoir rester sage. Combien de fois vouliez-vous me trahir? Je vous avoue, rien ne sert de mentir. Si ma bouche tremble tant et reste close, mes yeux m'ont révélé tant d'affreuses choses. Parfois je pourrais tuer votre image en deux mots comme en deux coups de couteau, mais jamais je n'ai trouvé assez de courage. Osez vous affronter et quitter votre peau.
Maintenant, bon, les années sont passées hein, depuis la fin des années 70. Vous êtes un cinéphile, enfin, comment vous nourrissez de cinéma?
Alors moi, je fais partie de ces gens qui adorent les séries B, les séries Z, les films de genre. Je suis un fan de Carpenter, je suis un fan de Cronenberg. J'ai aimé toute cette période du début des années 80 jusqu'à la fin des années 80. C'est vraiment ça qui m'a bercé. C'est le film de genre, vraiment. Après, bon, mais j'adore aussi le film, le film asiatique. J'adore les films coréens. Plus récemment, je me suis mis à regarder ça et puis je trouve ça assez génial. Après, le cinéma américain, le cinéma français un peu moins, même si j'ai découvert Truffaut, tout ça, toute la nouvelle vague aussi. Mais de base, j'aime vraiment les films avec des monstres, des UFO, des rayons laser, des robots. Voilà.
D'accord.
Voilà, je fais chier tout le monde d'ailleurs. À chaque fois que je mets un film, c'est genre, oh non. J'adore les séries Z. Je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant là-dedans. Mais je parle des vrais, hein, Roger Corman, pour moi, c'est vraiment un génie. C'est vraiment, et ça m'a aussi vachement influencé sur la façon de faire de la musique. C'est-à-dire qu'il faisait du cinéma un peu dans son studio, avec des moyens petits. Et je me suis dit que... En fait, je me suis rendu compte que j'aimais l'idée de pouvoir être indépendant et de pouvoir faire de la musique chez soi. C'est un peu le même délire, c'est-à-dire pouvoir fabriquer facilement des choses avec ses petits amplis, ses micros, son synthé dans sa chambre, plutôt que d'être dépendant d'énormes maisons de disques pour aller dans des studios et attendre qu'on vous donne de l'argent pour le faire.
Et c'est un peu ce que vous avez fait donc avec votre premier album. Vous vous êtes débrouillé quasiment tout seul, alors que vous auriez pu demander à votre père, hein, qui est un réputé ingénieur du son, qui avait, à mon avis, beaucoup de noms à vous offrir.
Voilà, accès. On lui a quand même demandé de nous aider pour louer le magnéto qu'on a mis chez nous. Ça, c'est sûr. Et puis, quelques techniques. Mais oui, avec mon frère, on s'est dit qu'on allait faire les choses de cette manière-là. Et c'est marrant parce que c'est vraiment une philosophie. Peu importe si certains sons sont un peu cheap, mais au moins, on a la liberté de pouvoir les faire, refaire, revenir... Et être complètement libre. Donc voilà, moi c'est l'idée, c'est la liberté avant tout, et je trouve une forme de liberté dans le cinéma d'auteur et le cinéma de série Z. J'ai toujours adoré ça.
Comment parler de films de genre? Moi quand je pensais à vous, vu que vous faites de la funk, je me suis dit, bah, tiens, il devait regarder les films de Black Exploitation, puisque c'était nourri de funk.
C'est marrant, je crois qu'on se nourrit... Enfin, moi, je me nourris de choses qui ne sont pas forcément proches de mon univers. D'ailleurs, je me nourris de cinéma pas mal pour chercher de la musique, mais ce n'est pas des films musicaux. Je pense que c'est une transformation qui se passe. La Blaxploitation, pas vraiment. Je pense que mon premier film de Blaxploitation, ça doit être Tarantino. C'est bizarre, hein. C'est Jackie Brown, je crois que pour moi, qui n'en est pas un, mais qui est un peu une référence. Après, j'en ai vu quelques-uns, mais j'ai toujours... Ça me parlait pas vraiment. C'était pas ça. Moi, c'était vraiment l'univers... En fait, j'adore K. Dick. Philippe K. Dick, cet auteur, je le trouve extraordinaire, je le trouve visionnaire, et j'ai trouvé que le cinéma de genre avait cette espèce de façon de vous amener ailleurs, de pouvoir dénoncer des choses en étant parfois un peu vulgaire, mais ça m'a toujours parlé. Et c'est marrant parce que j'adore le funk, mais les films de Blaxploitation, Je les trouve vraiment très mauvais.
Vous êtes plutôt Minority Report voilà. Et Solid Verhoeven.
Ouais, Total Recall. Oui.
Je ne sais pas si vous en avez en tête, parce que vous êtes fatigué, vous êtes en tournée. Mais est-ce que vous avez une scène vraiment marquante d'un film? Voilà, une scène qui vous est restée, une scène à laquelle vous repensez régulièrement.
Un des films qui m'a fait le plus peur de toute ma vie, c'est The Thing de John Carpenter. Et plein de scènes me reviennent, notamment la scène qui est pour moi la scène la plus terrifiante que j'ai vue au cinéma. J'avais 14 ans, 13 ou 14 ans quand j'ai vu ce film-là.
Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection. Lorsque Chose a attaqué nos chiens, elle a essayé de les digérer, les absorber. Et ce faisant, d'en assumer totalement l'apparence physique. Ceci, par exemple, n'est pas un chien. C'est une nation. Nous avons tué la chose avant qu'elle ait pu finir.
Finir quoi ?
Finir son imitation de nos chiens.
Il y a une des scènes où il y a un des personnages qui d'un coup fait un arrêt cardiaque et ils essaient de le réanimer. Et donc, celui qui est docteur prend ses deux outils, cette espèce de défibrillateur, et puis il le met sur le corps. Et le corps s'ouvre comme une grosse mâchoire, lui mange les bras. Et là, le personnage qui se transforme devient une créature abominable. La tête se détache, qui devient une araignée. En fait, ça m'a hanté pendant des années. Je me suis dit que cette scène est complètement folle, complètement dingue. Et ça m'a donné envie de faire des effets spéciaux. Avant de faire de la musique, je voulais faire ça.
On va peut-être maintenant parler de comment vous avez participé à la création cinématographique en faisant donc de la musique pour le cinéma, alors qu'à la base, vous êtes donc un musicien, mais de scène. Comment c'est arrivé? Parce que bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de filiation avec un réalisateur qui est Rémy Besançon.
Alors, ce qui est marrant, c'est que mon premier film en tant que musicien, c'est Mon Idole de Guillaume Canet. Et Guillaume est venu me voir un jour et me dit voilà, j'aimerais bien que tu fasses la musique de mon film qui s'appelle Mon Idole. J'ai écrit le film en écoutant ta chanson. Et je pense que ça irait hyper bien. Moi, j'avais jamais fait ça. Et je me suis dit, ok, comment on fait un truc pareil? Est-ce que je le fais? J'ai réfléchi 3 minutes. Hein. Je dis, ok, on fonce, on fait ça. Et ça, c'est le premier film que je fais. Mais c'était plus des chansons que du score. Ensuite, de fil en aiguille, je rencontre Rémy Besançon et je fais Ma vie en l'air. Ma vie en l'air, c'est plus du score que des chansons, il y a aussi quelques chansons. Et là, je commence à prendre goût à l'écriture de musique pour l'image. J'avais jamais fait ça, hein. C'est, enfin, à part Mon Idole, mais c'est un travail intense. Intense parce que ça demande une collaboration, ça demande de se mettre au service du cinéma, ça demande de se mettre au service d'un réalisateur, chose que je ne savais pas faire. Moi, j'étais au service de moi-même et de mes chansons. Ouais. Jusqu'au moment où les choses avancent, je fais le premier jour du reste de ta vie de Rémy Besançon. Et là, je suis nommé au César pour la musique. Et je me dis, waouh, extraordinaire.
Alors Albert, tu es content? La chambre te plaît?
Oui. Tu veux vraiment pas que je te paye un loyer?
Tu plaisantes. Garde tes sous. J'ai acheté une maison à ton père, je peux bien te prêter une chambre.
Tu m'as pas acheté une maison, papa, tu m'as juste prêté de l'argent que je te rembourse tous les mois. J'aurais jamais dû te demander ça, d'ailleurs. J'aurais dû emprunter à la banque, comme tout le monde.
Avec ton salaire de chauffeur de taxi, t'aurais pas pu emprunter beaucoup. Mais de toute façon, je m'en fiche de cet argent. T'en parlerai plus.
Merci.
Bon alors, vous deux, là, comment ça marche, les études ?
Bien. Moi, je rentre en troisième année et j'ai commencé les gardes aux urgences aussi. Oh,
c'est bien. On a toujours besoin d'un médecin dans une famille.
Ouais.
Et toi, Raph ?
Ben, moi, je me suis inscrit à la fac.
En fac de quoi ?
Ben, je sais plus.
Quelle motivation ? On voit que tu tiens de ton père. Je me souviens d'un commentaire d'un de tes professeurs sur ton carnet de notes. A touché le fond.
Mais creuse encore.
Bon, le film qui gagne cette année-là est un film quasiment sans musique. Je me suis dit, ok, les Césars, c'est comme les victoires. Allez mourir.
Bouge pas.
Ça me fera pas rester, tu sais.
Sur les photos aussi. Éternellement.
Thank you.
c'est vrai qu'il y a eu ce grand événement pour vous en 2009, parce que vous n'aviez pas fait tant que ça de bande originale. Alors, je ne sais pas avec qui vous étiez opposé, si c'était des habitués, hein, mais en tout cas, je me demandais quand même, si vous aviez gagné cette récompense des Césars en 2009, est-ce que vous auriez fait beaucoup plus de bande originale ou, voilà.
Je pense que oui, ça aurait changé pas mal la donne. Mais je me suis rendu compte que le plus intéressant dans ce travail, c'est quand même de faire la musique qu'on aime, la musique qu'on sait faire, sa propre musique. C'est plus ça qui se serait passé, c'est qu'on serait vraiment venu me chercher pour ma musique. Parce qu'au fil des années, j'ai continué à en faire, j'ai dû faire une dizaine de BO. On m'appelait parce qu'on savait que je savais faire de la musique. Et donc on me demandait de faire de la musique qui n'était pas vraiment la musique que je faisais, mais c'était de la commande. Jusqu'au moment où je me suis dit, putain, c'est de moins en moins bien payé et c'est de moins en moins intéressant. Et là, je me suis dit, trop chiant, trop long, trop chiant. Mais c'est sûr qu'un César aurait peut-être plus pour l'orgueil, l'ego, quoi. Ça m'aurait fait plaisir d'avoir ça. Parce qu'en plus, la musique du premier jour est vraiment bien. Ouais, elle est vraiment super.
Oui, en plus, la BO, il y a des musiques additionnelles, il y a beaucoup de musiques ouais. additionnelles, et il y a votre musique qui rajoute voilà, ouais, ouais. cet élément.
Ouais. Ouais, il y a un truc... puis le film est super, le film marche bien, j'aurais bien aimé être récompensé pour ça, mais bon, après, c'était mon troisième film, j'ai été récompensé ailleurs, ça va, aujourd'hui, tout va très bien.
Ok.
Qu'est-ce que tu foutais ? Tu l'as ramené, non ? T'avais dit minuit, il est plus d'une heure.
Hein ? Je suis pas une gamine, hein.
Arrête de me casser les couilles.
Ta gueule. Ça suffit, là, tu vas te calmer.
Tu me parles pas comme ça, ok? C'est toi qui déconnes, là.
Mais je te parle comme je veux. Je te rappelle que je suis ton père.
Qu'est-ce qui se passe comme ça, toi, petit con? Espèce de raté, va!
Vendredi 3 décembre 93, le premier jour du reste de ma vie.
Alors, par ailleurs, ce qui serait intéressant de savoir, parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de discuter avec quelqu'un qui compose de la musique pour le cinéma, c'est toujours de savoir si vous partez des images, si vous attendez des rushs, si vous allez sur le tournage, si vous avez les intentions du réalisateur. Enfin, comment ça se passe ?
Moi, je me fais vraiment confiance. Je pars d'abord de ce que me raconte le réalisateur sur son film, sur le sujet. Ça évoque en moi souvent une mélodie ou un morceau, comme une chanson, que je compose très vite, avant de voir des images. Et ça, c'est le cœur de la musique. Donc ça, c'est la musique qui évoque soit les personnages, soit l'histoire. Et après, il y a la musique à l'image, celle qui soutient les images. C'est vraiment, il y a deux écritures très importantes. Mais je commence d'abord par écouter ce qu'on me raconte et en écrire une chanson. Où il n'y a pas forcément de paroles, hein, mais il y a des mélodies, des arrangements. Et ce morceau, qui est souvent un peu compliqué, j'en fais ma boîte à outils, et puis je l'étire, et c'est le cœur du film.
Mais une fois que vous avez fait ce premier morceau, vous avez la validation du réalisateur, et vous retournez au boulot, enfin,
c'est ça, souvent, il ne comprend pas parce qu'il n'a pas encore fait son film. Donc il a ce morceau et il se dit « ouais, pourquoi pas ?» Et puis ce qui est le mieux, c'est qu'il puisse vivre avec et faire le film avec. Et quand ça se passe, c'est super, ça match. Et puis parfois, ça ne marche pas. Ça arrive aussi. Mais en règle générale, je ne me trompe pas trop sur ce que je ressens et sur ce qu'on me raconte. Donc c'est assez intéressant. Et après, c'est le travail de l'adapter aux séquences. Ça reste un exercice vraiment intéressant, c'est transformer encore une fois la narration en musique.
Et donc c'est un processus qui est long ou pas, enfin, votre processus ?
C'est la naissance du morceau originel et original, ça peut aller très vite. Après, ce qui est long, c'est de décliner, c'est de trouver les variations, c'est de trouver aussi les différences entre les personnages, parce qu'en fait, j'ai mis du temps à comprendre qu'il y avait quand même une musique qui se déclinait. Mais ça dépend beaucoup du film. C'est-à-dire que c'est le plus long, en fait, c'est lorsqu'on travaille sur une V1 de montage et qu'il y en a 10. Donc ça, parfois il y en a 10, parfois il n'y en a que 3. Et donc c'est le plus long, c'est de changer, c'est quand le film change, c'est quand le film ne marche pas, c'est-à-dire quand le film se réécrit complètement au montage. Là, ça devient vraiment, c'est très compliqué. Et en fait, moi, je muse très rapidement là-dessus. C'est pour ça que maintenant, j'aime bien être au début, arriver à la fin après. Okay. Tout le milieu, c'est très pénible.
Je voulais savoir, vous l'avez dit, Sinclair, vous avez fait une dizaine de bandes originales. Est-ce que ça vous est arrivé de refuser catégoriquement un projet ? J'imagine que oui.
Oui. Ouais, j'ai refusé des projets où c'était beaucoup trop éloigné de moi et que j'ai fait des films pour les mauvaises raisons aussi. Hein. J'ai fait des films pour prendre du blé. Ça, c'est des choses qui arrivent. Je le ferai plus jamais, parce que c'est une trahison personnelle et souvent aussi pour le film, même si la plupart des films que j'ai faits et certains que j'ai refusés n'étaient pas des grands films. Mais...
Et c'est à ce moment-là que mon enregistrement n'est plus audible. C'est donc le terme de cette émission que nous avons passée avec Sinclair. J'espère revenir l'été prochain avec une vraie série présentant des artistes nous parlant de cinéma.
Au revoir. Ça s'impose.
Mais pour quelle raison ?
Qu'est-ce que vous racontez ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Je ne connais pas la réponse moi-même. Comme vous êtes bizarre.
Oui !
C'est difficile de répondre.
C'est une plaisanterie !
La semaine prochaine, on retrouve le déroulement habituel du programme de Cinérama pour l'été. Pour la série sur les crimes adaptés au cinéma, nous parlerons d'Amityville. Et pour les réalisateurs également compositeurs de musique, ce sera David Lynch avec la rediffusion d'un blind test sur le réalisateur américain.